France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Downton Abbey, Peaky Blinders, The Crown, portrait de la nation anglaise à travers ses séries télévisées, le Royaume-Uni se raconte, une plongée dans l'histoire où le passé n'est pas seulement la toile de fond d'une intrigue, c'est l'intrigue elle-même, des familles royales aux prolétaires, des maîtres aux domestiques, avec la guerre, avec l'impérialisme, ce sont les tensions sociales et les intrigues politiques qui construisent la narration God Save the série télévisée.
Dernière vérification s'il vous plaît messieurs. Porte ouest.
Prêt, monsieur.
Triforium.
Triforium, prêt, monsieur.
Transept sud.
Transept sud, prêt, monsieur.
Plateforme du Jubé.
Plateforme du Jubé, prêt, monsieur.
Triforium 2.
Triforium 2, prêt, monsieur.
Messieurs, 3, 2, 1.
Elle s'avance maintenant sous les voûtes de Westminster.
Accompagnée du duc d'Édimbourg, la reine est accueillie par des applaudissements. La foule semble beaucoup apprécier ce jeune couple fringant, le symbole d'une nouvelle ère.
Avec ici un couronnement, et pas n'importe lequel, celui d'Elisabeth II dans la série télévisée The Crown, et la musique de Peaky Blinders, parce que tout se mélange dans le cours de l'histoire et c'est ça qui fait cette richesse. Victor Feignard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et vous avez soutenu votre thèse sur l'imaginaire social à travers les séries télévisées La Grande Guerre Britannique dans Downton Abbey et Peaky Blinders sous la direction de...
Céline Ségur et Hélène Valmarie.
C'était à l'Université de Lorraine. Nous parlons de ces séries télévisées qui racontent une histoire. Peut-on, d'après vous, apprendre l'histoire du Royaume-Uni, en tout cas au XXe siècle, en regardant ces séries télévisées?
Oui et non. Première question un peu complexe pour décrypter un petit peu. On peut apprendre des choses du Royaume-Uni. En tout cas, ce qu'on peut apprendre, c'est une ambition de showrunners de raconter une certaine histoire du Royaume-Uni avec ses zones d'ombre, ses invisibilisations et ses mises en avant de certains protagonistes. Donc une vision de l'histoire orientée, mais comme toutes les visions de l'histoire finalement...
Oui.
Dans les médias, il y a forcément un récit, un point de vue, un angle, et ces séries télévisées ne font pas exception.
Voilà, parce qu'elles ne sont pas écrites par des historiennes ou par des historiens, mais bien par des gens, les showrunners, ce sont ceux qui dirigent l'ensemble des équipes d'auteurs, d'autrices pour créer ces séries. Alors nous citons leur nom, Downton Abbey qui a connu un grand succès, et c'est vrai que c'est une série qui a vraiment marqué, qui a été diffusée à partir de 2013.
Qu'est-ce que 2010.
Ça raconte 2010 même, qu'est-ce que ça raconte
Downton Abbey, donc oui, c'est diffusé entre 2010 et 2015, et c'est suivi de trois films, et donc c'est une série showrunnée par Julian Fellowes qui raconte entre 1912 et 1926 pour le cas de la série l'histoire d'une famille aristocratique, les Crowley, et de leurs domestiques, entre intrigues sur fond de soap opéra, de grande guerre, de mariage, d'héritage, de décès, de disparition, et également aussi des intrigues un petit peu plus futiles, avec du vol de vin, le vol d'une tabatière, et aussi voilà, des petites animosités entre les domestiques.
Avec une série de ce type-là, nous nous inscrivons dans des séries qui existaient déjà au Royaume-Uni par le passé ?
Oui, alors pour le coup, Downton Abbey, son succès justement découle quand même d'une longue histoire au Royaume-Uni. Donc je parlais justement d'une famille aristocratique et de leurs domestiques, et donc c'est souvent un schéma narratif qu'on appelle le upstairs downstairs, qu'on traduit en français par maître et valet, qui vient en fait d'une série des années 70 qui prenait justement, qui avait un peu codifié ce genre-là. Donc à la fois on suit les domestiques dans les étages inférieurs et leurs relations avec les aristocrates dans les étages supérieurs. Et donc c'est une longue filiation de séries mais aussi de films qui reprennent ce schéma narratif. Avec vraiment un objet, enfin c'est un objet vraiment pop culture. Avec donc en fait, Downton Abbey s'est diffusé le dimanche soir. Et donc c'est un créneau vraiment centré sur ce genre de récit. On les regarde en famille. Il y a des épisodes à Noël qu'on regarde le jour de Noël. Donc voilà, c'est vraiment une institution. On peut dire au Royaume-Uni ce genre de fiction. Avec la différence que Downton Abbey, justement, c'est devenu la série la plus vue du Royaume-Uni, donc il y a eu une ampleur quand même totalement démesurée qui n'était pas attendue. Et même quand on regarde la première saison, elle fait beaucoup moins d'épisodes, les budgets sont différents. Donc il n'y avait pas non plus... on ne savait pas que ça allait avoir ce succès-là. Et il y a d'autres séries lancées dans les mêmes années qui reprennent le même schéma, mais qui ne sont pas sortis du Royaume-Uni. Donc, voilà, c'est un genre très britannique, mais qui a eu un succès international, ce qui était inattendu.
Avec Upstairs, Downstairs, Maître et Valet, nous sommes dans les années 1970, même au début des années 1970. Avec Downton Abbey, nous sommes bien plus tard. Y a-t-il une différence, d'ailleurs, d'approche de ces relations sociales ?
Oui, alors, dans le sens où Upstairs, Downstairs, c'était une série de la BBC, donc qui avait un point de vue peut-être un peu plus critique sur l'aristocratie que ne peut l'avoir Downton Abbey, qui est du coup réalisé, enfin showrunné par Julian Fellowes, comme je l'évoquais, qui lui-même est devenu Lord avec la réalisation de cette série, et qui, donc justement, vraiment a un point de vue de défense de l'aristocratie, de justement de ses prérogatives aristocratiques. Et donc justement, on peut voir ces déclarations à la Chambre des Lords, où toutes ces déclarations sont en faveur de l'aristocratie. Donc il y a voilà, un point de vue plus qu'orienté, et justement qui détonne un petit peu de, d'autres genres, parce que notamment Upstairs Downstairs a eu une sorte de remake suite en 2010 également, qui justement se montrait beaucoup plus critique, mais qui n'a pas eu le succès de Downton Abbey.
Quand vous vous emparez d'une série, Victor Feignard, au moment d'étudier, mais alors là, vraiment la conception même de la série, j'entends ce que vous nous dites, l'heure de diffusion, qui est le public visé, public familial ou non familial, la réception aussi, ça nécessite de croiser en fait des sources de tout type. Ce n'est pas simplement regarder la série et en analyser le contenu.
Oui, c'est un peu le choix qu'on fait dans pas mal d'études sur les séries télévisées, qui sont justement assez peu menées en histoire, mais plutôt dans d'autres disciplines. L'idée, c'est d'en faire un objet total, c'est-à-dire que l'objet de la série, vu qu'il évolue dans le temps, que lors du premier épisode, on ne sait pas comment ça va se terminer, que le public influe énormément sur les scénarios, avec des pétitions, avec des lettres aux showrunners, avec des adresses sur les réseaux sociaux. La série, c'est vraiment un objet mouvant qui, quand on l'analyse et qu'on le resitue, le recontextualise, donc avec une démarche justement d'historien, d'historienne, on peut saisir un ensemble de réalités sociales, à la fois donc, les pratiques culturelles des gens, comment on regarde une série, les Britanniques peuvent avoir des petits rituels, ils vont se servir le thé, ils vont bien s'habiller devant Downton Abbey, enfin voilà, il y a tout un jeu social et culturel. Il y a les enjeux de un peu plus politiques, de mobilisation de la série dans des discours, dans des dans les discours, mais aussi comme cadeau diplomatique, par exemple, parce que le scénario de la saison 5 de Downton Abbey a été offert en cadeau diplomatique alors qu'elle n'était pas encore diffusée au Premier ministre japonais. Donc c'est vraiment un objet de politique, géopolitique et d'influence pour le Royaume-Uni. Et il y a aussi le scénario qu'il ne faut pas mettre de côté après tout ce contexte, mais où on s'intéresse justement à voir les articulations entre les ambitions des showrunners, le jeu d'acteurs, il y a aussi tout le jeu de la persona, des acteurs qui arrivent. C'est un objet total qu'on peut approcher en croisant un ensemble de sources, ce qui demande aussi beaucoup de travail, d'essayer d'embrasser l'ensemble des choses qui sortent autour d'une série.
Une série comme Downton Abbey, nous avons une famille d'aristocrates, mais une famille fictive, c'est-à-dire que le showrunner, le directeur de série, invente des personnages dans un cadre historique, alors là, qui est la toile de fond, mais qui interfère avec l'existence de ces personnes, et de temps en temps, voit-on apparaître des personnages de la réalité historique.
Oui, c'est toujours le jeu un petit peu historique avec les séries, et puis ça permet vraiment de s'affranchir un petit peu de cette caution en réalisme ou en authenticité. Quand on prend des personnages qui existent, forcément on est beaucoup plus attaqué, critiqué sur la réalisation, donc le jeu de prendre des personnages fictifs, ça permet un petit peu de s'éloigner de ces critiques-là. Pour autant, la famille des Crowley, elle est fictive, mais la série est tournée au château de Highclere. Le scénario s'inspire énormément de l'histoire des Carnarvon, donc les propriétaires du château de Highclere, qui sont des très proches amis du showrunners. Et également de petites anecdotes plus générales de l'aristocratie britannique de cette époque. Donc en fait, c'est une famille fictive, mais une famille vraiment générique, syntaxique de l'ensemble de l'aristocratie de cette époque.
Oui, c'est l'archétype de la famille telle qu'elle est imaginée par ce directeur de série, telle qu'elle est imaginée aussi par les spectateurs, sachant que la série elle-même renforce les archétypes.
C'est ça, c'est toujours ce jeu, c'est que voilà, la série, c'est du divertissement, mais ça aussi construit des normes de représentation, ça propage une vision justement de l'aristocratie, qui peut des fois aller en l'encontre des attentes des téléspectateurs et des téléspectatrices, qui peuvent le mentionner, qui peuvent être un petit peu heurtés des fois par certaines représentations. Et donc c'est toujours un jeu de négociation entre voilà, l'ambition du succès, les réceptions, les adaptations. Et en fait, on voit au fil de la série des personnages qui évoluent au fil des réactions du public. On peut penser à Tom Branson, qui devait être un personnage très secondaire de la première saison et qui a eu un grand succès public et qui en fait est devenu un des personnages centrales des saisons d'après, jusqu'à devenir pratiquement, devenir un membre de la famille, justement parce que le public l'aimait beaucoup.
Oui, parce que ce n'était pas cohérent que Tom Branson, qui est le chauffeur ou quelque, c'est un des domestiques et qui après est quand même assis à la table des maîtres.
C'est ça, par un mariage, mais finalement, sa femme décède et puis en fait il va devenir vraiment un membre à part entière de la famille. Il va gérer le domaine, ça va vraiment être l'archétype de l'intégration dans les normes aristocratiques, alors qu'à l'origine, il est communiste, il est très vivement opposé à la hiérarchie sociale, et il s'accommode finalement très très bien des mœurs aristocratiques et il rentre pleinement dans la famille.
Il est irlandais en plus.
Oui.
Oh, ça fait beaucoup quand même. Et dites-moi, vous évoquez les réactions du public et on sait combien les sources sont toujours difficiles d'accès, surtout pour des entreprises privées parce que c'est le cas, et des périodes récentes. Mmh. Comment a-t-on accès à ces réactions du public ?
C'est justement le problème et aussi une des possibilités des séries. Donc justement, c'est de croiser un ensemble de disciplines où il y a notamment pas mal d'études de réception menées en sociologie. Je pense notamment aux travaux d'Hervé Glevarek ou de Clément Combe qui ont mené une grande enquête pour la réception des séries en France posant un questionnaire à plus de 2000 personnes, je crois, pour voir les séries que les gens regardent, les fonctions, comment ils regardent, sur quel support. Donc voilà, là on a vraiment des enquêtes de sociologie de réception. Et ce qui est beaucoup fait, c'est plutôt de saisir la trace des réceptions sur les réseaux sociaux, ce qui est justement un peu la façon la plus facile de toucher ce matériau sans mener une grande enquête sociologique, mais qui a aussi ses biais. Parce que, évidemment, tout le monde ne commande pas sur les réseaux sociaux, tout le monde ne se met pas en scène, tout le monde... Il y a des réceptions beaucoup plus confidentielles. Il y a aussi des approches ethnographiques qui ont été menées par Dominique Pasquier ou Sabine Chalvon-Demersay, qui allaient voir toutes les semaines dans des familles comment les gens regardaient Urgence, par exemple. C'est des travaux de sociologie de la réception, de sociologie de la culture, qu'on doit mobiliser, articuler avec des travaux de contexte. C'est un objet très interdisciplinaire.
Et dans Downton Abbey, il y a de très belles réceptions.
Nous restons tous ensemble.
Que veut-elle dire ?
Mais...
Oh, c'est une surprise!
Allez-y, jouez!
Et un, deux, trois!
Oh. Oh. Joyeux anniversaire, cousin Robert!
I'm just wild about Harry. And Harry's wild about me. The heavenly places.
Qui est ce chanteur et comment est-il arrivé ici? C'est assez déplacé, non?
Non, c'est amusant.
Grand-mère, trouvez-vous correct que Rose ait fait venir ce chanteur ?
Ma chère enfant, nous autres gens de la campagne sommes parfois peut-être un peu trop provinciaux. Lors de tes séjours à Londres, laisse l'air de la capitale d'éteindre sur toi.
C'est étonnant, du jazz à Downton Abbey.
C'est tout à fait charmant. Voyez-vous, Tom, il se passe des choses à Downton que personne n'imaginait possible il y a seulement quelques années.
Tom, on en parlait il y a quelques secondes dans Downton Abbey avec ici, lors d'une cérémonie, d'un anniversaire en l'occurrence, un chanteur de jazz afro-américain qui arrive et l'évocation de l'évolution. Parce que, Victor Feignard, j'ai l'impression que l'évolution, les changements, ça fait partie du fonctionnement même de ces séries-là. Mmh. Le temps.
Tout à fait, oui, c'est... La sève de la série, et que vous avez évoqué dans les deux autres émissions, c'est par rapport au cinéma, c'est un temps long, un temps des épisodes, un temps des séries, un temps des saisons. Donc, on a des séries, bon, là, c'est sur 5 ans, mais on a des séries au Royaume-Uni qui durent depuis les années 70, qui sont au 12 millième épisode. Donc, voilà, on a ce temps long qui permet de saisir voilà, l'évolution et le choix un petit peu de cette période de représentation pour Downton Abbey. C'est cette ère de transition, de changements autour de la Grande Guerre, de droits civiques, de changements économiques, de changements législatifs, et ça donne du matériau à la série, parce que c'est une famille qui doit faire face au changement du monde, et donc forcément, il y a un moteur de l'intrigue. C'est pas justement des guerres de trône, des guerres de succession, on a quand même une conflictualité, on a un moteur de l'intrigue, faire face au changement, comment on s'adapte, et donc la série parle beaucoup de ça.
Oui, parce que ça, on l'entend bien ici, qu'il y a, je ne veux pas dire une spécificité britannique, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport particulier du public britannique à l'objet série.
Oui, je pense qu'on peut le dire, c'est quelque chose qu'on n'en a pas forcément conscience en France, mais par exemple, si on prend le genre du soap opera, c'est un genre au Royaume-Uni avec justement Coronation Street ou EastEnders, qui sont des séries qui durent depuis plus de 50 ans, bientôt 60, qui sont de véritables institutions du Royaume-Uni. Et souvent, quand on pense soap opera, on va penser justement plutôt à des séries états-uniennes, Dallas évidemment, mais Les Feux de l'amour, etc. Alors qu'en fait, c'est un genre éminemment britannique, saisi par les Britanniques, qui se représentent et qui investissent énormément la fiction et les séries télévisées pour raconter une identité collective. Et les chaînes de télévision publique, la BBC, mais aussi ITV, ont aussi un mandat un peu de représentation, de construction de récits qui représentent le Royaume-Uni, la diversité du Royaume-Uni. Donc c'est un objet britannique extrêmement important et une pratique sociale et culturelle, voilà, j'insiste dessus, extrêmement importante pour les Britanniques. Et ce que je voulais dire également sur Downton Abbey, c'est que sur la scène là qu'on vient d'écouter, c'est pas anodin non plus que ce soit un chanteur de jazz africain états-unien. Ça aurait pu être un chanteur de jazz britannique, mais dans la série, dans Downton Abbey, il n'y a pas de noir britannique. Et donc là, on a quand même une vraie question de construction d'une identité britannique, de son absence de diversité, alors qu'il y a énormément de noirs britanniques dès les années 1910, dès le 18e, dès le 19e siècle, on a des révoltes britanniques, de noirs britanniques dès 1919. C'est une population très multiculturelle, mais pas dans Downton Abbey.
Vous voulez dire, il y a un biais ici, presque un choix.
Un choix, tout à fait. Et ça a été vivement critiqué par les spectateurs. Et donc, le personnage de Jack Ross qui arrive en saison 4, c'est justement une sorte de réponse de Julian Fellowes qui, face aux critiques, en disant bah, « Votre série, elle représente un Royaume-Uni très très blanc », de dire « Mais non, regardez, il y a quand même une diversité. » Mais ce n'est pas une diversité britannique, c'est un chanteur de jazz états-unien. Et donc, on a quand même cette invisibilisation des populations coloniales, de la diversité, de l'immigration au Royaume-Uni, très importante et très historique. Et ça, voilà, là, on est vraiment dans le point de vue idéologique d'une certaine identité britannique.
Avec une série qui s'inscrit dans ce long héritage que vous nous avez évoqué, Victor Feignard, qui est cet héritage d'une narration. Alors, en France, on a tout de suite envie de brandir roman national avec toute la complexité que cela évoque. Mais est-ce le cas, d'ailleurs? Est-ce que le Royaume-Uni est bien avant ces grandes séries que l'on évoque aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Downton Abbey, Peaky Blinders ou The Crown? Est-ce que avant c'est vraiment cela? C'est que par ces séries, alors je ne vais pas dire le pouvoir parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, mais enfin, en tout cas, les dominants, je cherche un mot de vocabulaire, imposent une vision de l'histoire.
Mmh. Ben, en tout cas, moi, c'est une des analyses que je développe dans mon travail, c'est que vraiment, Downton Abbey, c'est cette vision-là, c'est une vision d'un aristocrate qui cherche à promouvoir, à défendre un mode de vie aristocratique. Si je peux développer, ben en fait, les aristocrates au Royaume-Uni, depuis les années 1930, ne sont pour majorité plus propriétaires de leur domaine, plus propriétaires de leur château. C'est une association, la National Trust, qui possède les lieux, qui possède les domaines. et parce que les aristocrates n'arrivaient plus à faire perdurer les domaines, à faire vivre. Et donc ils ont réussi à faire, par un tour de force juridique, passer une loi qui autorise à ne plus être propriétaire des lieux, à quand même garder leur titre, à quand même hériter de leur titre, alors que normalement c'est lié à la propriété, et à également vivre gracieusement dans des lieux. Normalement, il y a une loi britannique qui empêche justement l'usufruit gratuit. Et les aristocrates bénéficient de cette exemption, donc par la National Trust Act, qui est passée en 1937. Et donc cette association possède la plupart des domaines, légères, et les aristocrates ont une sorte de mandat de vivre dans ces lieux et de défendre une tradition, une culture britannique, qui serait la culture aristocratique, qui serait un peu un patrimoine du Royaume-Uni. Et donc les séries télévisées, les films ont joué un grand rôle aussi dans cette diffusion. Et donc en fait, c'est à l'articulation vraiment d'enjeux économiques, d'enjeux politiques. Vu que les aristocrates doivent défendre un mode de vie, et ben ils s'appuient aussi sur les médias, sur la promotion par les médias de ce mode de vie. Qui, justement, est toujours un peu remis en tension, parce que le Royaume-Uni reste une société d'ordre, avec une classe qui peut accéder à la Chambre des Lords, qui vote des lois, qui interagit au nom d'un héritage de titres, et donc, j'insiste, dont ils n'ont plus la propriété des lieux. Après, voilà, il y a une notion de préservation, avec notamment le château de Highclere, qui, avant la série Downton Abbey, était en fait... pas en ruine, mais dans une très mauvaise posture. Il fallait tout refaire. Et donc, les Carnarvon étaient vraiment dans une situation où ils allaient devoir abandonner le lieu. Et la série Downton Abbey a en fait impulsé une grande dynamique touristique, avec énormément d'événements qui se sont tenus à Downton Abbey. Et les Carnarvon ont bénéficié, en fait, par ricochet de la série, d'une manne financière énorme. Ont rénové tout le château et maintenant font des dons faramineux au Parti conservateur, hébergent des congrès du Parti conservateur. Donc c'est vraiment une série idéologique qui a un objet à la fois de promotion du territoire, mais aussi de préservation d'une société. Et donc voilà, roman national, outils promotionnels, au Royaume-Uni, justement, on a moins ce débat comme en France sur la notion du roman national, la création au 19e. Ce qu'il y a à avoir un peu en tête, c'est que l'école est beaucoup moins investie dans la diffusion de l'histoire. Et donc, c'est beaucoup plus les médias, la télévision, qui a cette vocation de diffusion d'un récit de l'histoire. D'où aussi, voilà, cette place des séries historiques, des films historiques.
Une place politique, hein, parce que dans Downton Abbey, Victor Feignard, vraiment, l'idée de préserver le domaine, c'est au cœur de l'intrigue. Ils n'ont plus un rond, mais faut quand même trouver des moyens pour préserver le domaine. Alors, le leur, et puis regarde aussi ce qui se passe chez leurs petits potes aristocrates qui, eux, n'ont pas réussi et ont perdu leur domaine.
C'est ça, et donc c'est vraiment de présenter une série qui... justement, face à ces changements, comment on préserve les domaines, avec voilà, justement toutes ces tensions dont on n'a pas connaissance en France, mais autour de l'association de la National Trust, de comment on préserve les domaines, d'entreprises touristiques où il faut ramener des fonds, et également des tensions idéologiques au sein de la National Trust, avec notamment un rapport remis en 2020 sur le lien des maisons aristocratiques avec l'Empire colonial britannique. Et ce rapport montre un peu que toutes les maisons, tous les domaines ont un lien avec l'exploitation coloniale. Et au sein de la National Trust, ce rapport a fait grand bruit, et un groupe, notamment aussi avec des historiens. Donc c'est aussi une question, c'est voilà, le rôle des historiens qui s'investissent dans l'arène publique, notamment Robert Toombs, qui s'est exprimé en faveur du Brexit, et de plein de choses, et qui dit qu'il ne faut pas critiquer l'Empire colonial britannique, et qui s'est investi dans la National Trust, en essayant de monter un groupe de pression pour reprendre le pouvoir de la National Trust et de lutter contre ce qu'il appelle l'idéologie. Donc en France, on va plutôt parler de wokisme ou de termes-là. Au Royaume-Uni, on parle d'idéologie avec l'idée qu'en gros, la National Trust serait pilotée par 10 idéologues qui seraient anticoloniaux, décoloniaux, et qu'il faudrait garder raison et revenir à une autre interprétation. Et donc Downton Abbey, en fait, préfigure un petit peu ce rapport en 2020, mais voilà, avec sa présentation d'une identité britannique blanche, de l'invisibilisation des colonies, etc. En fait, elle préfigure aussi vraiment toutes ces tensions britanniques. Et en fait, il y a une véritable guerre culturelle au Royaume-Uni dont on n'a pas forcément connaissance outre-Manche.
Oui, et puis dans Downton Abbey, on voit parfois aussi les gens, le peuple. Alors, c'est le fermier, mais bon, là, il est avec le propriétaire, ça se passe bien. Et puis, ce sont les domestiques, avec cette relation complexe qu'il y a entre les domestiques et leur maître. Et c'est ce lien qui fait que du monde ouvrier, tout ce que nous évoquons avec Downton Abbey paraît extrêmement lointain. Alors, on les voit parfois, mais c'est vraiment très loin des préoccupations des maîtres et des domestiques eux-mêmes qui vivent dans la même maison.
Mmh. Oui, oui, on voit par petites touches des gens du peuple, un petit peu leurs enjeux de famille, de préservation, d'éducation de la famille, et on les voit beaucoup dans une sorte de symbiose avec la classe aristocratique qui va les aider, les protéger, essayer de leur retrouver une maison quand eux, ils vont plus pouvoir exploiter les terres de la famille. Vraiment ce paternalisme aristocratique, toujours voilà, avec cette idée de la classe aristocratique est importante, elle donne du travail, elle donne des logements, et donc il faut la préserver, et elle a un rôle social fondamental pour la structure du Royaume-Uni. Enfin, ça, c'est la vision voilà, du showrunner Julian Fellowes. Et ce qui est présenté aussi, c'est un petit peu le côté rétrograde des domestiques. Souvent, ils vont être plus conservateurs et plus conservatrices que les aristocrates. Donc, il y a aussi cette idée de montrer que les aristocrates sont très progressistes, bien plus que le peuple qui, voilà, des fois, reste plus conservateur.
Oui, voilà. Et c'est cette longue étude qui a pu être réalisée tant et tant sur le lien entre les domestiques et les maîtres, avec pour chercher à entendre la parole ouvrière, l'idée aussi de changer de série et d'aller voir Peaky Blinders.
Camarades, nous sommes réunis pour voter pour ou contre la grève. Mais avant que nous passions au vote, saluons tous ceux qui se sont battus en France, tous ceux qui étaient aux côtés de vos camarades, et qui les ont vus tomber. Levez les mains. Des flots de sang se sont répandus sur les champs de Flandre. Qui récolte les fruits que vous avez produits? À la sueur de votre front. Est-ce vous? Vos femmes? Alors qui? Est-ce qu'ils sont ici avec nous? Ou est-ce qu'ils sont chez eux dans le confort de leur maison, le ventre bien rempli, quand vous, vous trimez pour pouvoir acheter une simple paire de godasses à vos gamins? Et comment ils vous récompensent des sacrifices que vous avez faits pour eux? En faisant des putains de coupes dans vos salaires, c'est ça votre récompense. Que tous ceux qui veulent la grève lèvent la main.
Le personnage de Freddy Thorne dans Peaky Blinders, c'est le premier épisode de la première saison ici. Victor Feignard, de quoi parle Peaky Blinders ?
Alors, Peaky Blinders, c'est une série showrunnée par Steven Knight qui raconte l'histoire d'un gang fictif, comme la famille Crowley, des Shelby, des Peaky Blinders, entre donc, la série 1919 et 1934 pour la série. Et donc, il y a un film qui va sortir dans 2 jours, qui va là se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça raconte l'histoire de ce gang criminel issu des classes ouvrières de Birmingham et leur ascension sociale sur un schéma aussi un petit peu classique de criminalité, depuis les paris hippiques jusqu'à en fait à être député et à agir à la Chambre des députés pour voter des lois.
Ah, c'est politique aussi d'un coup.
Tout à fait. C'est un petit peu un point de vue que je défends. Les séries voilà, sont vraiment politiques. Elles racontent des normes sociales, une façon de concevoir le pouvoir, de concevoir les rapports de classe, les rapports sociaux. Et Peaky Blinders voilà, développe ce projet idéologique qui est vraiment exprimé dès aussi la création de la série, avec Steven Knight qui explique qu'il en a marre de la représentation des domaines, de la représentation des classes aristocratiques, et qu'il veut représenter un autre récit du Royaume-Uni en série. Parce que donc, il y a des films sur les classes ouvrières, mais il y a assez peu de séries. Et donc, lui, il voulait vraiment présenter cette contre-histoire du Royaume-Uni. Il le formule vraiment comme ça. C'est aussi voilà, quelque chose à savoir. Birmingham, c'est la deuxième ville du Royaume-Uni et qui, en fait, bénéficie de très, très peu de fiction, de très peu de mise à l'écran. Et lui, il voulait voilà, présenter aussi cette ville ouvrière, cette deuxième ville du Royaume-Uni, la plus peuplée, et de raconter un petit peu son histoire à travers les classes ouvrières.
C'est une histoire populaire à travers les séries, on peut le voir comme ça. Il y a le sentiment d'ailleurs, au moment de la réception, d'avoir une série, alors j'utilise un vocabulaire français, mais une de droite, une de gauche.
C'est... peut-être, enfin, la question, elle s'est peut-être un peu moins posée en ces termes justement politiques, dans le sens où Julian Fellowes est resté un petit peu plus au-dessus de la mêlée. Il dit non, simplement, je raconte le Royaume-Uni, je raconte l'émancipation féminine. Et Steven Knight, derrière la critique de « il en a marre des séries qui représentent l'aristocratie », va pas forcément plus loin. Il a commencé à faire des déclarations politiques plutôt à partir des années 2018, où il a commencé à vivement défendre, par exemple, le modèle économique de la BBC et cette institution qu'est la BBC face aux critiques sur son modèle de financement, etc. La série Peaky Blinders présente un point de vue qui, justement, au début, on pourrait se dire bon, c'est un point de vue de gauche, un point de vue ouvrier, mais va développer quand même une vision tellement critique de l'establishment, du pouvoir, des relations sociales, qu'on pourrait souvent la rapprocher d'une forme de libertarianisme, donc qui n'est pas forcément gauche-droite, mais qui va voilà, être plutôt... une sorte de récupération d'une forme un peu libertaire avec une ambition capitalistique. Et donc, quand même, plutôt classée à droite. C'est une vision très anti-élite, très anti-dominante, très anti-représentation nationale et organisation sociale par la criminalité, par le monde ouvrier. Donc, la porosité, voilà, n'est pas forcément gauche-droite.
Avec Downton Abbey, il y a eu des conséquences pour le château lui-même, devenu lieu touristique. Une série comme Peaky Blinders, ça évoque aussi toute une histoire britannique avec un patrimoine. Est-ce que ça a eu des conséquences?
Oui, ça a eu des conséquences, donc parce que, notamment, première conséquence, ça a été la création de studios dans les Midlands, donc pas loin de Birmingham, où la série est en partie tournée. Donc, ça a fait un gain économique des industries culturelles britanniques. Il y a un deuxième volet qui a été après l'organisation de tours, de home tours, de parcours touristiques sur les lieux de la série, mais leur visite actuelle. Donc, qui a eu aussi des retombées économiques pour la ville de Birmingham. Et lors des dernières saisons, notamment lors de la saison 4, 5, 6, en fait, les nouvelles saisons étaient annoncées par des affiches un petit peu surprises dans la ville de Birmingham. Donc, il y a vraiment un ancrage entre Peaky Blinders et la ville de Birmingham, avec l'objet de promotion de la ville, qui est une ville qui, par exemple, lors de son centenaire, bon, parce que le Royaume-Uni a une classification des villes très, très particulière, et en fait, Birmingham n'a été élu au rang de ville qu'à partir de la moitié du 19e siècle, il y avait plus de 1500 événements lors de l'année, etc. Donc, c'est une ville aussi, un territoire qui a l'habitude un peu de se raconter, de se mettre en scène. Et Peaky Blinders, c'est aussi un outil promotionnel du territoire et du patrimoine de Birmingham.
Dans la représentation du pouvoir, dans Downton Abbey, nous sommes avec des aristocrates, nous l'avons bien dit, une famille fictive, mais un cadre historique qui correspond à ce qui s'est passé. Le pouvoir en tant que tel, c'est-à-dire déjà la famille royale, et puis après le gouvernement, les ministres, apparaissent-ils ?
Dans Peaky Blinders, ils apparaissent. Dès la première saison, on va avoir Churchill qui va apparaître à plusieurs moments. Avec justement une sorte de petit anachronisme, on lui donne des responsabilités ministérielles qu'il n'avait pas à ce moment-là, etc. On va voir en fond, la monarchie, George V va être évoquée à plusieurs moments de la série, notamment dès la saison 1. Et sinon, on va voir un petit peu le personnel politique de l'ombre, on va voir les conseillers ministériels, on va voir les agents secrets, on va avoir... et donc, on va plutôt être dans cette vision du pouvoir par les arcanes, par ce qui est dissimulé, plutôt que par la façade publique. Et après... lors de l'élection de Thomas Shelby député, on va avoir quelques scènes au Parlement, mais en fait, ce qu'on va beaucoup voir, c'est les négociations en sous-main entre divers protagonistes. Donc, une représentation du pouvoir par l'occulte, par le cachet.
C'est aussi par l'occulte qu'on voit des histoires de quiquetterie dans Downton Abbey, où l'on voit le pouvoir, parce que là aussi, au plus près de la famille royale, c'est par cet aspect qu'on peut voir les princes, même pas les souverains, on les voit dans Downton Abbey.
On va les voir dans, je crois c'est la saison 4 ou 5, lorsque Rose, une cousine, va être présentée à la cour. Et après, par contre, on va voir la famille royale dans le premier film, parce que le scénario du film, c'est de la visite de la famille royale à Downton. Donc là, on va les voir de manière beaucoup plus appuyée. Et les monarques vont également... Enfin, George V va notamment être évoqué aussi lors d'un discours à Noël. Lors d'un discours, il va être présenté. Donc, on a par petites touches, mais sans leur donner une grande place à l'écran.
Oui, voilà. Donc, il n'y a pas une représentation de la famille royale qui pourrait être considérée comme critique.
Non.
Non, c'est très, très sobre dans cette histoire-là. Dites-nous, Victor Feignard, au moment d'étudier ces séries-là, nous avons tout un panorama qui s'écrit avec, pour les deux que nous évoquons, Downton Abbey et Peaky Blinders, une temporalité, Première Guerre mondiale, la suite de la Première Guerre mondiale, les années 20. C'est ça la période pour ces deux séries ?
Tout à fait, oui. Et pour revenir sur le point précédent... Peaky Blinders, c'est aussi assez peu critique de la monarchie. Voilà. Donc oui, ces séries, donc Downton Abbey commence en 1912, la deuxième saison va se concentrer sur la Première Guerre mondiale, tandis que Peaky Blinders commence dès 1919, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est des séries qui sont produites, donc Downton Abbey à partir de 2010, Peaky Blinders à partir de 2013. Donc, on est dans la préfiguration du centenaire, où on est en plein milieu du centenaire de la Grande Guerre, de ces années 20. Et donc, voilà, il y a aussi forcément cet enjeu-là. Et donc, on est dans cette période d'après-guerre qui est une période de profond bouleversement, on l'a dit, mais plus généralement, qui a un peu considéré la période des années 20 comme un peu la constitution du Royaume-Uni contemporain. C'est là où va y avoir un ensemble de modifications sociales, culturelles, économiques, géographiques, qui ont donné un peu la forme au Royaume-Uni contemporain. Et donc, ces séries s'emparent vraiment de ce moment fondateur. Du Royaume-Uni, le raconte. Et donc, on est dans la période à peu près similaire, d'où le fait que j'avais essayé de les comparer et de montrer un petit peu ce qui se racontait du Royaume-Uni.
Voilà, et donc on voit bien la richesse ici à travers les séries pour saisir. Alors, les choix de narration, ça c'est une chose sur une période. C'est la première temporalité, la période qu'elles évoquent, donc un début du XXe siècle. Et puis la deuxième temporalité, c'est la période où elles apparaissent, ces séries. Downton Abbey 2010, Peaky Blinders 2013, The Crown 2016. Est-ce que vous avez, Victor Feignard, une explication pourquoi à ce moment-là, dans ces années 2010, arrive plein de séries historiques au Royaume-Uni?
Justement, peut-être que c'est... En fait, ces séries, en fait, par leur renommée internationale, on va se dire justement, il y a cette vague de séries historiques, mais en fait, le Royaume-Uni construit constamment des séries historiques. C'est juste qu'on ne les voit pas, qu'elles ne traversent pas forcément la Manche, qu'elles restent au Royaume-Uni, parce que dans ces mêmes années, y a un ensemble de productions qu'on va assez peu voir en France, mais qui vont avoir un grand succès au Royaume-Uni. Et donc le Royaume-Uni se raconte toujours son histoire, se raconte toujours, produit tout le temps des fictions historiques. C'est un genre qu'on a évoqué avec le Upstairs and Stairs, le costume drama plus généralement, le période drama plus généralement.
Ce sont les Tudors, c'est dans l'ombre des Tudors, ces séries-là qui nous conduisent au temps d'Henri VIII, qui nous conduisent sur d'autres périodes. Vous avez raison de le souligner, hein, l'effet prisme est dangereux de ne regarder que les séries qui ont eu du succès à l'étranger parce que ça fait oublier, même si les Tudors ou dans l'ombre des Tudors a eu un succès à l'étranger, mais ça nous fait oublier la grande variété des périodes historiques traitées par ces séries.
Oui, et puis par exemple Paul Dark, y a un ensemble de productions qui ont aussi un succès il y a un moment qui se cristallise aussi autour du centenaire et puis du Brexit évidemment, de tensions géopolitiques, politiques, de citoyenneté, discussion aussi et d'une forme de montée de la xénophobie au Royaume-Uni. Il y a tout un ensemble d'enjeux qui fait que ces séries, elles se positionnent dans un climat quand même assez houleux, assez compliqué. Et après, elles ont reconnu, elles ont eu un succès international.
Ah ouais, question d'identification, c'est vrai qu'au moment troublé du Brexit, on se pose la question un peu, qu'est-ce qu'on est dans cette histoire-là, au moment d'une telle rupture et dans l'histoire des séries qui nous intéressent quand le Royaume-Uni se raconte et se raconte en série. Il y a des personnages, alors on l'a dit, Downton Abbey, fictionnel, Peaky Blinders, fictionnel, mais The Crown, bien réel.
Ici Londres, face au palais de Buckingham. Et on y soit qui mal y pense, mais l'immense parade est commencée. Vous en aurez toute la journée la description et les échos sous ces alternatives de grandeur et de fêtes foraines, d'ordre et de tourbillon, de majesté et de tohu-bohu, selon que nous serons tournés vers le formidable cortège au rite séculaire, ou vers la formidable foule accourue des quatre coins du royaume et du monde. Car elle est là, la foule, elle est là, monstrueusement agglomérée, il faut le dire, au carrefour et le long des parcs où elle a campé, à même l'asphalte, et certains depuis deux nuits. C'est la foule du bas, celle-là, c'est la plus excitée peut-être, c'est la plus stoïque en tout cas, dans ses couvertures et sur ses caisses à savon. La foule du milieu paye, elle, déjà le droit de n'être arrivée qu'à 5 heures ce matin et d'avoir un banc de bois, un gradin ou un bloc et de rester 10 heures de station ou un stand quelque part un peu plus haut pour voir le long du mall, le long des parcs, le long des rues du centre. Les privilégiés seront plus haut encore. Ils seront sur les buildings ou aux fenêtres à prix d'or vers Whitehall, vers Haymarket ou à Oxford Street, tandis que le fin du fin s'entassera, dans un ordre parfait d'ailleurs, à Westminster Abbey.
Reportage télévisé au moment du couronnement de la reine Elisabeth II en 1953. Victor Feignard, qu'est-ce que The Crown ? Qu'est-ce que cette série ?
C'est une série donc, qui est diffusée à partir de 2016 jusqu'en 2022. Créé par Peter Morgan, qui avait proposé le projet à la BBC, à ITV, et c'est finalement Netflix qui s'est emparé du projet. Et l'histoire raconte en fait le règne d'Elisabeth II depuis son mariage en 1947 jusqu'en 2005 avec le mariage de Charles et Camilla. Et donc voilà, on n'est pas dans la même période que Downton Abbey et Peaky Blinders. On a une vingtaine d'années d'écart sur la fin de ces séries. Et voilà, c'est l'histoire de la reine Elisabeth II, de ses interactions avec ses ministres, notamment ses premiers ministres, et qui fait suite justement à un premier film, The Queen, réalisé par Peter Morgan, et également une pièce de théâtre, The Audiences, qui voilà, se concentrait déjà sur ses relations entre la reine et ses ministres, et donc en jouant sur ce qu'on ne sait pas. Ces interactions, ces rendez-vous, on ne sait pas ce qui s'y dit. Et la série, en fait, s'empare de ces discussions pour montrer, à partir du personnage réel, du fictionnel.
Oui, nous voyons souvent les coulisses du pouvoir. Nous sommes dans le palais avec la reine qui reçoit. Et puis, en toile de fond, d'ailleurs, il y a l'annonce au public de la décision. Nous voyons ces coulisses-là. Les Britanniques se racontent leur histoire avec des passages douloureux, d'ailleurs. C'est ça qui est absolument passionnant à voir dans The Crown. C'est le non-dit qui apparaît. Est-ce que la série The Crown a pu être perçue comme une série qui dévoile des choses, ou en tout cas qui permet au plus large public d'apprendre des choses de leur propre histoire?
Avec la particularité déjà que, enfin, vraiment j'insiste, c'est une série Netflix, et donc en fait il y a une par rapport par exemple à Downton Abbey ou Peaky Blinders qui à l'origine étaient des séries plus confidentielles, qui n'avaient pas ce projet d'envergure, Netflix avait vraiment cette ambition, ce soit une série premium, ce soit la façade de la plateforme, une de leurs séries voilà vraiment premium, donc ils ont mis le budget énormément dès le début, ils ont fait beaucoup de promotion, donc il y avait une ambition beaucoup plus assumée derrière ce projet, avec voilà c'est une des séries les plus chères de l'histoire dès sa première saison, ce qui n'est pas du tout le cas pour Peaky Blinders ou Downton Abbey, qui s'adressait plutôt à des chaînes locales à l'origine. The Crown, voilà, a cette ambition. Elle a justement cette idée de jouer sur les interstices, le côté privé du pouvoir. Au début, la monarchie n'a rien dit. Et à partir de la saison 4, ils ont demandé explicitement à ce que figure que c'était une fiction. Pour essayer de s'éloigner de ce qui aurait... Enfin, voilà, d'essayer de suggérer qu'on connaît vraiment les arcanes du pouvoir, de ce qui s'est dit lors de ces réunions. Et donc, il y a des moments douloureux de l'histoire, mais qui, en fait, sont souvent quand même présentés plus ou moins en faveur de la monarchie. On la voit de temps en temps un peu balbutier, un peu trébucher, mais elle sort quand même un petit peu toujours la tête haute de ces tensions. Mais les Britanniques ont peut-être plus qu'en France, ils se confrontent un peu plus à des questions compliquées de l'histoire. Et le Brexit a renforcer cette dynamique. On a essayé un petit peu plus de comprendre les questions postcoloniales, comprendre le Commonwealth, comprendre les relations entre les individus, la citoyenneté britannique. Et donc ces séries voilà, s'emparent beaucoup plus de ces objets.
Comment est représenté d'ailleurs l'impérialisme britannique et donc le Commonwealth indirectement dans ces différentes séries ?
C'est ça qui est particulier avec Peaky Blinders et Downton Abbey, c'est que le Commonwealth, officiellement, en fait, il commence qu'à partir de 1949, donc il est pas, voilà, mais il est en germe, en fait, dès 1926, donc les deux séries le présentent. Et dans Downton Abbey, on va avoir de temps en temps la mention de l'Inde. On a un oncle qui va partir en Inde. Et puis, en fait, voilà, c'est des troubles qui se passent en Inde. L'impérialisme britannique s'évoque aussi par les troubles en Irlande. C'est vraiment la formule qui est employée par la série Downton Abbey. Voilà, il se passe des choses en Irlande, des troubles, mais on ne voit pas la question des massacres, la question de l'ordre répressif de l'armée britannique avec des viols, des massacres, etc. Dans Peaky Blinders, on va avoir ce Commonwealth, ou en tout cas cet empire, qui va être évoqué par la question irlandaise, où les personnages vont assez rapidement évoquer l'impérialisme anglais par rapport à l'Irlande. On va avoir des, du commerce avec les Indes, notamment. Et on va avoir cet impérialisme plus spécifiquement par des personnages. Et c'est ça un peu la particularité de Peaky Blinders, c'est qu'ils vont montrer des personnages issus de l'Empire britannique, notamment Jeremiah Jesus et Isaiah Jesus, donc le père et le fils, qui sont jamaïcains et qui ont servi pendant la Grande Guerre, habitent à Birmingham, qui a une grande population jamaïcaine. Et donc on va avoir ces personnages qui vont aussi pointer en creux, qui vont exprimer un point de vue sur l'ordre impérial. Jeremiah Jesus est incarné par Benjamin Zephaniah, qui est un poète issu de qui habitait à Birmingham, parce qu'il est décédé désormais, qui était très connu à Birmingham et qui avait été décoré de l'ordre, enfin, on lui avait proposé l'ordre du British Empire, et il l'a refusé dans une lettre ouverte dans la presse, en refusant cet ordre, en disant, bah voilà, je refuse cet ordre, c'est de la domination coloniale du Royaume-Uni sur les ex-colonies, sur le Commonwealth. Et donc voilà, il y a aussi ce jeu spécifiquement britannique, parce qu'on n'a pas forcément cette connaissance de la renommée de Benjamin Zephaniah et de son refus, dans Peaky Blinders. Et dans The Crown, par contre, donc on va avoir la constitution du Commonwealth, ça va être une des parties de la série, et on va avoir aussi un petit peu plus la géopolitique de comment gérer cette coalition en fait, d'ex-colonies qui ont des régimes différents par rapport au Royaume-Uni. Il y a encore des territoires du Commonwealth dont le monarque officiel est le monarque du Royaume-Uni. Il y en a d'autres avec des régimes politiques différents, donc c'est vraiment un objet géopolitique extrêmement complexe avec des administrations, des termes juridiques très différents. Et ce qu'on va voir, c'est notamment un petit peu l'ordre commun de ce Commonwealth. On va par exemple avoir la reine Elisabeth qui va gérer des tensions avec le Ghana, notamment lors d'une cérémonie et d'une danse. On va avoir des tensions autour de l'apartheid en Afrique du Sud, de sanctions économiques, où justement là, ça va être la question d'Elisabeth qui va essayer de pousser Margaret Thatcher à voter des sanctions économiques. Donc on a, elle sort grandit, la monarchie finalement, de cette gestion du Commonwealth, en évacuant l'histoire très dure de l'Empire britannique, de sa décolonisation, qui est en fait souvent présentée par les Britanniques comme une décolonisation pacifique par rapport à d'autres territoires, alors qu'en fait ça a été une décolonisation extrêmement meurtrière, extrêmement sanglante, mais qui a ce récit britannique de décolonisation confortable, amicale, par la discussion, par la négociation, en effaçant justement les massacres, notamment en Inde.
Oui, voilà, en effaçant tout ce qui a pu faire couler du sang et en montrant, et c'est justement dit, Victor Feignard, comment ces séries racontent une histoire. Après, nous savons que ce sont des séries issues d'univers privés, donc c'est très intéressant à voir ici que ce n'est pas un pouvoir qui impose une histoire, mais que l'influence d'un certain récit dépasse même la volonté politique, avec aussi ces moments dans The Crown où la monarchie et donc les Britanniques règlent des comptes avec leur propre passé, notamment le positionnement d'Édouard VIII, le roi, par rapport au nazisme, et puis la reine qui, grâce à The Crown, règle ses comptes, et donc le peuple règle ses comptes avec cette histoire-là, celui qui fut si proche des nazis.
Oui, c'est toujours... c'est une série très intéressante, justement, sur cette question des révélations, de comment des secteurs privés vont se saisir d'une histoire, vont négocier avec le pouvoir, avec des institutions, parce que, pour placer quand même la monarchie britannique, c'est une monarchie spectacle. C'est vraiment une notion à avoir en tête. C'est que, à partir des années 1870, c'est une monarchie qui va être dépossédée d'un ensemble de pouvoirs et qui va, en fait, investir énormément les médias émergents, qui va créer, par exemple, la cérémonie du couronnement, qui, en fait, avant était une cérémonie privée, mais qui va commencer à la retransmettre, à la médiatiser, pour essayer d'exister médiatiquement. Et, en fait, cette existence médiatique et cette, vraiment cette symbiose entre le pouvoir, l'institution monarchique et les pouvoirs médiatiques, on va souvent plutôt avoir... On va se dire, voilà, la monarchie va rester secrète, va s'éloigner des médias, etc. Mais en fait, il joue vraiment de cette conflictualité avec les médias, de cette peopleisation, de cette publicité. Et donc, la monarchie britannique va vraiment exister par les médias tout au long du XXe siècle, investir les différents canaux médiatiques. Et en fait, The Crown, malgré leur volonté de montrer que c'est une fiction, etc., ils se servent aussi voilà, de cette série privée qu'ils n'ont pas commandée, etc. Mais ils ont ce parti pris avec les institutions médiatiques.
Le directeur de série de Downton Abbey est devenu Lord, disiez-vous, donc on comprend que les autres ont peut-être envie de finir ainsi et donc ils ne veulent pas chahuter la monarchie. Dans cette histoire-là, il y a des histoires, bien sûr, réécrites au sens où l'on dissimule des choses, on en met d'autres en avant. Et puis, il y a des passages, j'ai presque envie de dire obligés, tant ils font consensus, je pense notamment à la conquête de leurs droits par les femmes. Ici, dans la conquête de leurs droits par les femmes, nous avons ces scènes qui ponctuent ces séries.
Oh, mince, mon corset est trop serré. Anna, quand vous aurez fini, auriez-vous la gentillesse de me le desserrer ?
Tu glisses sur la mauvaise pente.
Je n'ai pas pris de poids.
Il n'a pas rétréci dans le tiroir. Êtes-vous prête à descendre ?
J'ignore pourquoi nous nous embêtons avec les corsets. Les hommes n'en portent pas et ils ont l'air très bien dans leurs vêtements.
Cela dépend des hommes. Elle fait son intéressante. Elle va nous parler du vote maintenant.
Si tu me demandes si les femmes devraient voter, la réponse est oui.
J'espère que tu ne vas pas te retrouver enchaînée à une grille à faire la grève de la faim.
Et vous, qu'en dites-vous, Anna ?
Je trouve ces femmes très braves.
Tout à fait d'accord.
Les femmes veulent le droit de vote ! Les femmes veulent le droit de vote !
Que diable faites-vous là ?
Je ne pouvais pas rater ça.
Ah oui, voici. Je ne suis pas rassurée, mademoiselle.
Non. Oh, pitié, non.
Par ici.
Le droit de vote des femmes dans Downton Abbey. Victor Feignard, dans ces histoires-là, il y a aussi ces destins féminins. Et dans Downton Abbey particulièrement, hein, parce que ce sont trois filles. Et donc, il y a toute la réflexion sur l'émancipation des femmes qui traversent ces histoires. Ce qui veut dire que ce sont des séries complexes. Et c'est en cela qu'on ne peut pas critiquer l'ensemble d'une série, étant donné que c'est tant et tant d'épisodes avec tant et tant d'intrigues, tant et tant de sujets abordés, parce qu'à peu près tout est abordé, hein, l'homosexualité, les différences sociales, etc. Et donc, le destin des femmes.
Tout à fait, oui. Et c'est justement aussi une particularité de ce genre du upstairs downstairs, c'est aussi la place accordée aux minorités sexuelles notamment, où en fait on a souvent dit voilà, que ça pouvait être un genre conservateur, mais qui en fait, quand on analyse les scénarios, laisse beaucoup de place aux femmes, à leur émancipation, à la question du travail. Dans Downton Abbey, il y a justement cette question à la fois de l'émancipation par le travail, où Sibyl et Edith vont travailler pendant la Grande Guerre. Finalement, Marie va s'y mettre beaucoup plus tard, mais va gérer le domaine. Mais donc voilà, il y a une observation par le travail. Il y a la question donc, des droits civiques, de l'acquisition des droits électoraux en 1919 par une partie des femmes. Et c'est aussi ça un petit peu un élément de tension au Royaume-Uni, toujours, voilà, c'est une histoire très conflictuelle, c'est que ce mouvement de revendication des droits, ce mouvement suffragiste, il émerge déjà dès la fin du 19e, il est pour partie mis en pause pendant la Grande Guerre, avec l'idée qu'il faut une union sacrée, et le gouvernement va présenter, en 1919, une sorte de récompense pour les femmes qui ont travaillé. Et en fait, cette ce droit civique accordé en 1919, il ne concerne que les femmes propriétaires d'un certain âge. Et donc, en fait, il s'adresse principalement à l'aristocratie, à la bourgeoisie. Et en même temps, il déchut de ses droits un ensemble d'hommes, un ensemble d'autres populations du Royaume-Uni. Donc, en fait, c'est une loi d'acquisition civique, mais aussi de reconfiguration de la citoyenneté qui retire un certain nombre d'individus de la citoyenneté britannique. Et cette loi, elle est complétée en 1926 par là une acquisition pleine et entière du droit de vote féminin. Et donc, il y a cette conflictualité sur... On présente souvent 1919 l'acquisition des droits de vote féminin. En fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est qu'une partie de la population, ça reconfigure la citoyenneté. Et également, une tension sur le mouvement suffragiste qui va être présenté de manière plus ou moins positive en fonction des séries, en fonction des récits, avec en fait deux courants, enfin il y a plusieurs nuances, mais deux courants majoritaires au sein du mouvement suffragiste, un mouvement réformiste qui simplement demande un changement de loi, et un mouvement beaucoup plus contestataire qui va défiler dans les rues, briser les vitrines, incendier des bâtiments, qui en fait, ces mouvements vont des fois être gérés par les membres de la même famille, les Pankhurst, qui vont avoir à la fois la mère et une des filles du côté réformiste, à la fois une des autres filles du côté contestataire et de l'action directe. Et justement, la fille du côté de l'action directe n'a été honorée que très tardivement par le Royaume-Uni pour la conquête des droits féminins, tandis que Christelle et Sylvia Pankhurst ont leur statut devant Westminster. L'autre fille Pankhurst a simplement une petite statue dans un parc. Donc il y a vraiment aussi une tension sur la citoyenneté britannique, l'acquisition des droits de vote, comment ça a été acquis, est-ce que c'est une récompense, est-ce que ça s'est bien passé, avec aussi beaucoup de violence, en fait, dans cette histoire.
Oui, parce que c'est vraiment cela, et c'est l'intérêt des séries, c'est de pouvoir développer longuement, et donc de regarder toutes les facettes, sachant que nous avons quand même une intrigue dominante. Dans ces séries que nous avons pu évoquer aujourd'hui, il y a, Victor Feignard, vraiment les années 2010, qui sont un moment de création de séries, mais le temps passe. Est-ce que d'autres formes de séries historiques apparaissent au Royaume-Uni? Parce qu'on ne va pas reproduire sans cesse des histoires de familles d'aristocrates.
Je pense que si. Je pense qu'il va continuer à y avoir des séries aristocratiques. Il y en a quelques-unes qui sont sorties depuis la création de Downton Abbey, qui souvent proposent un peu des récits alternatif, on va suivre par exemple un groupe de musiciens, il y a d'autres séries. Je pense que l'aristocratie va continuer un peu à fasciner, ou à défaut de fasciner, à être un élément important de l'histoire. Peaky Blinders me semble avoir créé un petit peu un précédent, mais en tout cas une possibilité d'espace de séries un peu plus au schéma narratif un peu différent, parce que c'est une série en 6 épisodes par saison qui coûtait très peu cher au début. Et donc la BBC, au début, on s'en servait un peu comme série sur des chaînes locales, et on a commencé à faire un objet promotionnel de ces productions, notamment par exemple par rapport à The Crown. La BBC va dire, regardez, Netflix, vous mettez 100 millions, nous pour 100 millions, on produit 25 séries. Dans ces 25 séries, il y a des séries sur l'aristocratie, il y a des séries sur les classes populaires. Je ne sais pas si ça va complètement bouleverser le parc télévisuel britannique et la construction de séries. Ce qui risque de beaucoup changer, c'est la réforme royale de la BBC qui devrait arriver en 2027, qui va changer ses moyens de financement, qui va changer sa charte déontologique, sa charte de présentation. La BBC, c'est une institution qui est vraiment vivement critiquée depuis pas mal d'années. Donald Trump est par exemple en procès avec la BBC. Il y a également des scandales d'un présentateur britannique qui avait une vaste entreprise de pédophilie et de pédocriminalité, Salo, je crois.
Ça, il lui irait bien.
Oui. J'ai perdu.
C'est pas grave.
Mais c'est une institution qui a la croisée de plusieurs critiques de
Jimmy Savile.
Qui va être réformé en 2027, et ça va sûrement changer le mode de production britannique.
En tout cas, il y aura toujours des séries, et ça, c'est tant mieux. Il y aura toujours des chercheurs, des chercheuses pour les étudier. Et ça, c'est très important aussi. Merci vivement à vous, Victor Feignard, d'être venu dans le cours de l'histoire nous parler de ces différentes séries, Downton Abbey, Peaky Blinders et The Crown, et tant d'autres, sachant que maintenant, nous n'allons plus les regarder exactement de la même manière. Merci à vous. Prochain épisode dans le cours de l'histoire de la Normandie au Vietnam. Les États-Unis mettent en guerre leur série You Must Leave Immediately, You Must Go to the Canal.
You must leave immediately. They have been trying to reach you all day. You must go to the canal, at Rue Livoire, near Cordon.
What about the tobacco shop?
But it's too late, they've all left. They will leave in less than an hour. Now hurry, please, but be quiet. He's still here.
Le cours de l'histoire sur France Culture, ça c'est un extrait de la série Combat, une série des années 1960. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau et Cassandre Puel, à la technique d'Alia, émission préparée par Raphaël Alloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copa, Sidonie Lebeau et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.